Bonjour Annie Genevard.
Bonjour.
Il y a eu beaucoup de monde dans les rues hier pour le 1er mai sur fond de contestation de la réforme des retraites. 2 300 000 manifestants selon la CGT, environ 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est 7 à 10 fois plus que lors du 1er mai de l'année dernière. Est-ce que le président de la République doit répondre à cette mobilisation ?
Alors je pense que le président de la République comme la première ministre ne peuvent pas ignorer d'une part l'ampleur de cette manifestation, même si c'est pas le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé, doit prendre en compte l'unité syndicale, aussi c'est un fait politique qui n'est pas négligeable, mais doit aussi prendre en compte la violence qui s'est exprimée, celle des casseurs venus de toute l'Europe. La France a désormais une réputation d'un pays où on peut casser du gendarme, du policier. Enfin, les images qu'on a vues hier de ce policier en flammes sont absolument effrayantes. Il y a une volonté de blesser, de tuer. Ils s'en prennent véritablement à notre démocratie.
Effectivement, il y a eu hier sans doute plus de violence que les fois précédentes. Vous dites que la France a la réputation d'un pays où on peut casser, où on peut s'en prendre à des gendarmes, où on peut ou bien où l'on doit. Et dans ce cas-là, pour quelle raison ? Pourquoi la France est-elle ciblée, notamment comme ça, par des casseurs étrangers ?
Parce que ces manifestations à répétition, au fond, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avons eu les gilets jaunes, nous avons eu les manifestations à l'occasion de la première réforme des retraites, qui n'a pas abouti, et puis les manifestations à l'occasion de la seconde réforme des retraites. Donc nous sommes un pays en permanence en ébullition depuis 6 heures maintenant, et évidemment c'est un terrain de jeu pour les casseurs de tout poil, qui voient là l'occasion de s'en prendre à nos forces de l'ordre. Le saccage de Paris.
Mais qui est derrière ces violences ? Qui est derrière et avec quelle intention ?
Moi, je ne suis pas d'un naturel complotiste, mais je pense qu'il y a en France et en Europe des gens qui ne sont animés que par le désir de casser du gendarme ou du policier, que de saper les bases d'un fonctionnement démocratique, qui veulent le désordre à tout prix. Malheureusement, ce 1er mai s'est illustré d'une façon tragique pour plus de 100 policiers quand même qui ont été blessés. Moi, c'est d'abord à eux que je pense.
L'agence Fitch, qui a abaissé la note de la France en fin de semaine dernière, évoquait le climat social justement et les manifestations dans son communiqué. Ce mouvement contre la réforme des retraites qui s'éternise d'une certaine manière, ça fait des mois, est-ce qu'il nuit à la France sur la scène internationale ?
On va voir les conséquences que cela aura, notamment sur le possible redressement des taux d'intérêt. Ce que dit cet affaiblissement de la note de la France, c'est à la fois la difficulté à réformer et puis une situation qui, objectivement, est des plus difficiles parce que la France est à la fois une dette colossale, un niveau de dépenses publiques le plus haut de tous les pays de l'OCDE, un taux de prélèvement d'eux-mêmes. Donc où sont les marges de manœuvre ? Elles n'existent pas en réalité, si ce n'est ce que nous réclamons depuis longtemps, qu'on diminue les dépenses de l'État. On a un État qui est, comme le dit le président Ciotti, obèse sur le plan social et squelettique sur le plan régalien. Donc il y a des réformes structurelles vraiment de fond à apporter, mais il n'y a pas le climat social qui permet de les conduire. Là est l'impasse et c'est aussi ça que juge Fitch.
Alors justement, oui, dans son communiqué, Fitch s'inquiète, je cite, d'une impasse politique qui va peser sur la capacité de la France à réduire son déficit et sa dette. Donc au fond, ce ne sont pas seulement les comptes publics qui sont pris en compte par l'agence Fitch, mais aussi la situation politique.
Le climat social et la situation politique, bien sûr, bien sûr.
La situation politique qui considère par Fitch comme un facteur de détérioration de nos comptes publics.
Disons que la situation politique qui ne permet pas de dégager des majorités, si ce n'est ponctuellement sur tel ou tel texte, interdit de conduire les réformes qui seraient pourtant nécessaires. Regardons la situation de notre pays. Nous n'avons jamais dépensé autant d'argent public et nous n'avons jamais eu des services publics aussi dégradés. Regardez l'école, regardez l'hôpital, regardez la justice. Bref, où qu'on se tourne, on ne voit vraiment pas de motif à être satisfait de la situation de notre pays. Or, un responsable politique, il a le devoir d'améliorer les choses pour ses compatriotes. Mais le peut-il? Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et son gouvernement peuvent-ils gouverner? Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une impasse. Dans l'affaire des retraites, je pense que l'erreur majeure a été d'ignorer les partenaires sociaux, comme cela a été fait, ou du moins de ne pas suffisamment les avoir pris en compte. Et aujourd'hui, eh bien, il faut rattraper, ou du moins essayer de rattraper cette erreur originelle.
Peut-être aussi d'avoir dans un premier temps parlé d'une réforme de justice, puis d'une réforme nécessaire, ce qui n'est pas la même intention. Que pourrait faire aujourd'hui Emmanuel Macron pour trouver cet apaisement auquel il a appelé dans son intervention du 17 avril? Est-ce que la reprise du dialogue avec les syndicats à laquelle la CFDT a dit qu'elle était prête peut être la clé?
C'est une des clés, probablement pas la seule. Je pense que l'apaisement résulte aussi de la confiance retrouvée. Et pour rétablir un climat de confiance, d'abord, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et il faut aussi avoir un cap clair. Quand on dit à la fois il faut dépenser moins parce qu'on ne peut plus dépenser autant, mais que l'annonce de dépenses chaque jour ou presque dément la proposition de la veille, c'est pas de nature à inspirer confiance, donc c'est pas de nature à apaiser. Quand on ne sait pas, quand on dit tout à la fois il faut une réforme de l'immigration parce que les Français n'en peuvent plus de voir un pays qui ne sait pas contrôler ce qui arrive sur son sol et que dans le même temps on dit ben, on ne va pas la faire maintenant parce que c'est trop compliqué, ce n'est pas de nature à apaiser parce que ce n'est pas de nature à donner confiance aux Français. Donc je pense que l'apaisement, il procède évidemment de la capacité à dialoguer avec les corps intermédiaires, mais pas seulement. Ça touche aussi aux choix politiques et à la clarté de ces choix.
Les députés, les Républicains, se réunissent demain en séminaire après les divisions que tout le monde a pu observer au sein du groupe sur la réforme des retraites. Il sera question de l'avis du groupe, justement. Les députés ont reçu un questionnaire qui porte notamment sur leur vision de la liberté au sein du groupe, que ce soit sur les textes discutés à l'Assemblée nationale ou sur les prises de parole dans les médias, ce que vous faites ce matin. Est-ce qu'il y a un manque de discipline chez les Républicains?
C'est une question compliquée parce que à la fois il faut pouvoir exercer son libre arbitre et nous sommes tous élus sur notre nom et voilà, la liberté de vote est un principe dans notre groupe.
Oui. Et ce principe. Il y a aussi la discipline de vote.
Mais il y a à la fois la liberté et il y a à la fois le collectif. Oui. Et donc c'est dans cette conciliation qu'il faut trouver sa place. Alors tout dépend de la nature des sujets. Il est clair que sur des sujets de société, c'est la liberté de vote qui prévaut parce que ça interroge la conscience de chacun. Sur des votes très significatifs, il est bien évident que.
Comme la motion de censure où 19 députés.
Par exemple. Par
que
exemple,
19 ont voté.
Par exemple, il est clair que. Tout vote différent et a une portée politique sur laquelle on va être nécessairement interrogé et qui se traduira par une image parfois de division dont on nous tiendra, dont on sera comptable. Donc c'est cet équilibre à trouver. Voilà, il y a trois votes, vous le savez, pour, contre et abstention. Donc moi je considère que quand on ne peut pas véritablement ou voter pour ou voter contre, il y a toujours la possibilité de l'abstention. C'est pas le vote le plus courageux, mais la difficulté, c'est quand vous avez les trois votes sur une même décision, là ça acte vraiment. Donc c'est le rôle du chef de groupe, hein. C'est pas un rôle facile, mais Olivier Marleix s'y attelle avec beaucoup de courage.
Merci Annie Genevard, bonne journée.